On est en train de continuer une étude sur la recherche de Dieu. Parce que Dieu, il y a beaucoup de choses à nous apprendre dans ce thème-là. Puis là, il me révèle des nouvelles idées au fur et à mesure que l'étude, elle se développe. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas encore touché, mais qui, ça fait partie de l'ensemble de ce que Dieu veut faire. Il veut faire une restauration complète dans nos vies. Il veut nous changer complètement. Il veut qu'on apprenne avant toute chose à lui faire confiance. Il veut qu'on apprenne à ce qu'on cherche, lui, en premier de tout dans notre vie. Qu'on le fasse passer le premier. Puis s'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé dans notre vie, premier réflexe, se tourner vers Dieu, puis de lui demander.
Amen.
On peut savoir amen là-dessus. Se tourner vers Dieu et lui demander. Au lieu de, on se tourne vers les hommes, vers le science, vers les psys, puis les psys avec un S, parce qu'il y en a de toutes les sortes, des psys, dans tout. C'est correct de voir les gens puis leurs solutions. Mais avant toute chose, il faut apprendre, frère et soeur, à regarder à Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est celui qui peut tout. Les humains peuvent patcher, mettre des pansements, donner des pelules. Mais ça guérit pas. La guérison vient de Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on peut se recevoir une guérison. Il y a des soulagements, il y a des soins qui sont nécessaires, ça je suis d'accord. Mais avant, il faut apprendre à remettre nos vies dans les mains du Seigneur. Tous nos petits problèmes, nos grands problèmes, en fin de compte, tous nos problèmes, il les connaît. Il sait tout. Puis il y a la solution pour toute situation. Quand Jésus était sur la terre, il guérissait toute maladie, toute infirmité. Il n'y a rien que Jésus n'est pas capable de guérir. Puis Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore pareil, il peut encore faire au-delà même de ce qu'on peut s'imaginer. Fait qu'il faut apprendre, frères et sœurs, à rechercher Dieu en premier. Prendre du temps avec, là, c'est ça, rechercher, c'est prendre du temps pour lui parler. C'est comme rechercher ton communion avec notre épouse, c'est prendre du temps avec pour lui parler. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Faut prendre du temps avec, faut lui parler, faut lui remettre nos soucis, puis apprendre à lui faire confiance. Seigneur, je te remets cette chose-là entre tes mains, puis merci de ce que tu vas faire. Je te fais confiance. C'est comme si tous tes fardeaux, tu lui remets à ses pieds. Et tu lui dis, Seigneur, c'est tes problèmes, à ce temps, c'est les miens. Tu lui fais confiance. Puis il dit, mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Amen.
Amen.
C'est à cela qu'il faut arriver, frères et sœurs. On peut dire, j'aime Dieu et pas lui faire confiance. On peut dire, j'aime Dieu et pas avoir appris à lui faire confiance. On continue à se confier à nos capacités, à nos forces, puis aux aides qu'on a autour, sans jamais rien lui demander, et sans lui faire confiance qu'il pourra régler le problème, nous guider vers des solutions. Le sujet aujourd'hui, dans la recherche de Dieu, c'est afin d'être relevé dans l'abattement et dans nos afflictions. Dieu voit-il et est-il sensible à nos afflictions?
Amen.
Est-ce que Dieu se préoccupe des afflictions de son peuple? Dieu est-tu sensible à cela ou Dieu il se dit qu'il s'arrange avec le trouble? Moi, je les ai envoyés qu'est-ce qu'il fallait et je ne veux pas rien savoir de leurs affaires. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu il a un intérêt pour ce qu'on passe à travers présentement. Il y a un intérêt quand il nous voit souffrir, ça le fait souffrir. Quand quelqu'un s'en prend à un enfant de Dieu, il y a un verset qui nous dit que c'est comme s'il touchait la prunelle de son œil. Il en fait un cas personnel. Il faut apprendre que Dieu nous a à cœur, puis on est pour lui ce qui est le plus précieux. On est les prémices de la création. Savez-vous c'est quoi être les prémices? Mais dans l'Ancien Testament, quand c'était la saison qui commençait pour les cultures, là, il labourait, il se met. Les premières gerbes qui étaient cueillies, c'était offert à Dieu, c'était les prémices. La première récolte, les premières gerbes, il était à mon sacrificateur, tiens Seigneur, la première porte appartient, c'était offert à Dieu en reconnaissance. C'est ça les prémices. Puis la Bible nous dit que nous, les élus, nous sommes ses prémices, ceux qui lui appartiennent. dans toute la multitude de la création, nous sommes ceux que Dieu a choisis et nous a appelés à faire partie de sa famille. Puis on est comme donné à Dieu. On s'est donné à Dieu comme on est des élus, mais on est comme les premiers fruits ou les fruits de la terre qui ont été offerts à Dieu. Chacune des vies qui est donnée à Dieu, elle appartient à Dieu. C'est comme si on a décidé de vivre pour Dieu, pour glorifier Dieu, on fait partie des prémices. Puis ces prémices-là, c'est son Église. L'ensemble des sauvés sur la terre font partie de ceux qui ont été offerts, une petite minorité parmi la multitude d'humains qui a eu cette terre. Et pour lui, c'est important, Dieu, ses enfants, sa famille, son peuple, son troupeau, parce qu'il est le berger, puis nous sommes ses brebis. Il nous a emmenés dans sa bergerie. Pour lui, nous sommes ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Savez-vous que Dieu a créé l'univers pour que l'Église soit là? L'Église est comme le centre du fruit, du travail, de tout son travail depuis aussi longtemps que Dieu travaille pour avoir créé l'univers qu'on voit aujourd'hui. Puis il a créé la terre, puis il a créé toute forme de vie là-dessus, pour arriver à ce qu'il y ait des humains, puis encore les humains, c'était pas le but. Le but, c'était les humains qui se donneraient à lui pour être ses prémices, pour être de ceux qui vont vivre l'histoire sans fin avec lui. C'est nous. On était prédestinés dans sa préscience, là, aussi loin qu'il pensait, avant même que ça soit créé, il pensait de former des humains, il serait libre de faire ce qu'il voudrait, mais il s'attend à ce que ces gens-là se tournent vers Dieu, qu'ils puissent se donner à Dieu, puis servir Dieu. Et pour Dieu, toute la peine de son travail, c'était pour nous trouver, pour qu'on aboutisse un jour à rentrer dans ses bras et à lui appartenir. Voyez-vous que si le but de création était de se faire un peuple parmi cette multitude de tout ce qui existait dans ce monde, on est précieux, on compte pour lui. Fait que quand il voit une de ses brebis qui souffre, vous allez voir que Dieu il est sensible à nos souffrances, à nos afflictions, à nos problèmes, à ce que nous pouvons avoir comme tout ce qu'on a traversé qui pourrait être pénible. Est-ce que c'est normal pour un chrétien d'être affligé? Il y en a qui vont dire, non, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es que dans la victoire, puis tu n'as jamais de problème, puis c'est comme si on se cache les yeux ces problèmes. Ça n'existe pas réellement une vie qui est 100% dans la victoire dans tous les domaines de sa vie, c'est impossible. C'est quelqu'un s'y pense ça, il s'imagine des idées, c'est pas la réalité. Tout le monde fait face à des combats contre nous-mêmes, des combats contre le monde, des combats contre le diable, des souffrances, des peines, des difficultés dans ce monde. On est obligé de se lever pour aller travailler quand t'as mal partout, puis aller gagner ton pain si tu veux asseoir ton front. On est dans un sol qui a été maudit au début de la création, puis c'est pénible. C'est pénible, puis encore, nous autres, on a des jobs syndiqués, en parenthèses, syndiqués, protégés, réglementés, bien faciles, quand on sait qu'il y a des pays qui n'ont aucun règlement, puis ils travaillent des 18 heures par jour, sont enfermés dans une petite boîte la nuit dans la shop, pour pouvoir dormir là, puis ils ressortent le lendemain matin, puis ils retravaillent, puis ils ont 5 ans quand ça commence à travailler, aucune protection, les enfants meurent parce qu'ils travaillent trop, puis il y a des pays qui c'est le même, puis que nous, on est dans la ouate, je veux pas, on est dans le pays où on vit, on est dans la ouate, on est dans la facilité, on est choyé comme si l'un des pays les plus faciles à vivre dans ce monde, on est choyé, mais c'est quand même difficile par moment, puis il y a les maladies qui embarquent, puis les problèmes qu'on a fait face. On a tous des afflictions. Veux, veux pas, on est tous en train de vivre des choses qui nous pèsent sur les épaules. Puis c'est fatigant. On est chargé par tout cela, plus nos combats contre nos péchés, puis plus qu'est-ce qu'on endure dans ce monde. C'est pas facile. Mais est-ce possible de recevoir de l'aide de Dieu? Savons-nous que Dieu peut nous venir en aide? Puis que j'ai à le rechercher dans le but qu'il me vienne en aide. Dans Isaïe 49, le verset 13, dans ce verset-là, c'est une prophétie dite par le prophète Isaïe. Puis il nous dit, « Cieux, réjouissez-vous! » terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple et il a pitié de ses malheureux. Dieu console son peuple et il a pitié de ses malheureux. Qui fait partie du peuple de Dieu? Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus font partie du peuple de Dieu. Donc, cette parole est pour vous. Sachez que Dieu, l'Éternel, il console son peuple. Si on est son peuple, mais il nous console. Il y a une consolation possible. Avez-vous le goût d'être consolé par Dieu?
Oui.
C'est bien mieux que n'importe quelle pilule ou n'importe quelle thérapie quand Dieu intervient dans le cœur d'une personne. Puis il a pitié de ses malheureux. Il voit la souffrance de son peuple. Quand le peuple d'Israël, qui était son peuple, choisi à cause d'Abraham, il était dans la souffrance dans le pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait?
Il les a fait sortir de là.
Il a tout fait pour qu'ils sortent de là. C'est sûr qu'ils ont souffert un bout. Mais après ça, Dieu est descendu, puis là, il a envoyé Moïse avec sa puissance, puis il a fait des signes, des prodiges, des miracles, puis ils ont sorti le peuple de là, puis il nous a donné une terre pour se reposer, une terre promise. Mais Dieu fait la même chose encore aujourd'hui. C'est pas juste pour ce temps-là. Dieu peut être votre consolation. Vous pouvez vous sentir entouré de sa paix, de sa joie, de son amour, comme si vous vous sentez serré dans ses bras. Dieu veut, il vous aime, il veut vous secourir. Dieu veut que tu saches que dès les anciens temps, là, dans les temps les plus reculés où on a de la révélation de Dieu, il s'est révélé comme étant celui qui guérit. Dieu, il se faisait appeler Yahweh Rapha, qui est un nom dans l'Ancien Testament en hébreu, qui veut dire que c'est celui qui guérit. C'est le Dieu qui guérit. Il avait fait une alliance avec le peuple juif. Puis il s'est révélé comme étant celui qui guérit. Il dit, puis le mot guérir dans cette phrase-là, c'est guérison, être guéri, rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer, penser, ou comme un médecin. Dieu se révèle comme étant celui qui peut panser vos plaies, comme étant votre médecin. Bonjour. Dieu nous dit « Bonjour, je suis Dieu, ton médecin, celui qui peut te guérir. » Dans l'Ancien Testament, ça voulait dire « Dieu, mon guérisseur. » Ce nom-là, il a été révélé aux enfants d'Israël quand ils vinrent à Rapha, dans le désert, puis ils ne pouvaient pas boire de l'eau, parce que l'eau était amère. Ça, on voit ça dans Exode 15, versets 22 à 26. C'est là que Dieu a révélé son nom, Yahweh Rapha. Dieu fit une alliance de guérison avec son peuple. Il lui dit, si vous gardez mes commandements et vous marchez dans ma parole, autrement dit, vous êtes consacrés à moi, là. Mais il dit que Dieu était pour les guérir, leur donner la santé. Puis il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est écrit Exode 15, verset 26. Dieu veut que tu saches qu'il est capable de guérir. Jésus l'a démontré, il a fait toutes sortes de miracles. Puis, ça dépend de notre foi. Est-ce qu'on croit que Dieu peut le faire? Est-ce qu'on croit que Dieu veut le faire? Des fois, on se dit, oui, je crois qu'il peut le faire, mais je ne crois pas qu'il veut me le faire à moi. Mais si vous seriez malade, puis vous seriez dans la ville de Jérusalem, dans le temps de Jésus, puis que Jésus passe dans la rue, si vous auriez été là, malade, sur le bord du chemin, peut-être aveugle, sourd, tout croche, puis là, Jésus aurait passé, puis vous auriez dit, « Seigneur, aie pitié de moi! » Jésus aurait viré de bon sa nuit, il aurait prié pour vous, puis vous auriez été guéri. Il l'a fait à tous ceux qui étaient devant lui et qui lui demandaient. Jésus est encore le même aujourd'hui. Il s'attend à ce que vous ayez de la foi. Il veut que vous croyiez qu'il est celui qui guérit. C'est quand tu rentres dans cette connaissance-là, de connaître que Dieu, il peut te secourir. Dans l'Ancien Testament, il y a dans les psaumes, ils en ont parlé justement du secours de Dieu, puis ils ont été inspirés à nous donner des paroles dans les psaumes, des paroles de consolation qui remplissent nos cœurs d'espérance puis de vouloir croire que Dieu est capable de nous guérir. Dans le psaume 34, le verset 6 à 8, ça nous dit « Quand un malheureux crie, quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui souffre, qui a de la peine. Il arrive des malheurs, il arrive des choses difficiles dans sa vie. Il est triste, il est abattu, il pleure, il est malheureux. Qu'est-ce que tu fais quand tu es malheureux? Tu critiques. Ah non, c'est pas ça qu'il faudra faire. Faut pas critiquer. Faut prier, crier à Dieu, et dire Seigneur! Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu vous entend. Pourquoi il veut vous entendre? Parce que vous êtes précieux pour lui. Vous êtes ses enfants. Y a-t-il une mère qui ne veut pas écouter son enfant qui broille, qui crie? Règle générale, les mères sont attentives aux cris de leur enfant. Un moindre petit cri qui, oups, il se passe quelque chose. Ils vont même vérifier. Ils vont même au-devant. Mais Dieu, il est pareil. Il veut qu'on sache qu'il est pareil. Il veut venir au-devant de nous. On crie parce qu'on crie à Dieu, pas crier des bêtises, pas crier des critiques, crier dans le but de demander un secours. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est ce que ça nous dit dans le psaume 34, versets 6 à 8. En plus de ça, il nous dit dans ce passage-là, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voyez-vous, dans ce verset-là, on trouve aussi la solution comment y arriver. Il faut que vous désiriez trouver votre refuge en Dieu. Vous réfugiez, c'est tu te mets à l'abri en dessous de lui. C'est lui mon protecteur, c'est lui mon guide. Mon père est bien plus fort que le tien. Parce que tu te sens en sécurité, tu t'es réfugié en dessous du secours de Dieu. Tu as confiance que ce Dieu-là peut répondre à ton cri. Tu as confiance qu'il va te secourir, qu'il va te délivrer, qu'il va pourvoir, va te protéger. Dieu va tout faire pour toi si tu apprends à te réfugier, à lui faire confiance. Un autre beau psaume qui nous parle de la même phrase dans le psaume 34, versets 17 à 22. Là, il ne dit pas les malheureux qui crient. Il dit quand les justes crient. C'est qui ça, les justes?
C'est nous autres.
À cause de quoi?
À cause de lui.
À cause de lui, mais être juste, ça veut dire que oui, cette personne-là, c'est une personne juste. Dieu déclare que certaines personnes sont justes. À cause de quoi qu'on a été déclarés juste? C'est parce qu'on est meilleur que les autres?
Non.
Pas du tout.
Parce
que Jésus a passé sur nous, son sang a passé sur nous, on a été lavé de nos péchés, on est purifié. Fait qu'à cause de Jésus, je suis devenu juste. Pas parce que je le suis parce que je suis meilleur qu'un autre. Fait qu'il n'y a jamais de place pour qu'un chrétien s'enfle d'orgueil. C'est tout parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Toute la gloire revient à Jésus. Fait que quand un juste crie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a passé par Jésus, il crie à Dieu, ah, les oreilles de Dieu se redressent. Il dit, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Est-ce que des détresses que Dieu n'est pas capable de nous délivrer?
Non.
Dieu peut tout, même au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Puis, on continue ce verset-là, dans le verset 18, écoutez bien ces paroles-là. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi avoir le cœur brisé? Avoir de la peine, la souffrance dans notre âme. On est abattu, on est dans l'affliction, parce qu'on vit des affaires difficiles, puis là on a le goût de pleurer. Mais quand un de ses justes, ses enfants, il est dans la peine, parce qu'il est malheureux dans son cœur. Il a le cœur brisé, il a de la peine, de la souffrance. Dieu, il est à côté de lui. Il est prêt. C'est ça que ça nous dit. L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça veut dire que là, t'as le cœur brisé, t'as de la peine, puis là, t'es abattu, t'es écrasé. Ça non, je suis plus capable. J'ai de la misère. Je suis pas capable de ça. Dieu, il est là, puis il entend toutes tes lamentations. Pas tes lamentations dans les critiques, tes lamentations dans le sens que tu cherches son secours. Tu confies dans ta faiblesse, tu dis que t'es pas capable seul par toi-même de t'en sortir. Puis tu t'attends à ce qu'il fasse. Dieu, il est là, là. Il écoute tout ce que tu es en train de lui dire. Tu as pensé à soirée à pleurer, il est à côté de toi, puis il t'écoute. Des fois, tu dis, je suis seul, il n'y a personne qui m'écoute. Dieu est à côté de toi, puis il t'écoute. Jésus, quand il le dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Fait qu'il est là que quand on pleure, puis il est là aussi quand on est dans le plaisir. On est heureux, on est béni. On pète le feu dans le sens spirituel, on est heureux. Non, mais Dieu est là aussi. Mais particulièrement aujourd'hui, je veux porter l'attention sur que rechercher Dieu afin d'être relevé dans l'abattement et dans nos afflictions. Fait que quand tu es affligé, tu as de la peine, puis tu es triste, puis tu pleures, là, tu tombes dans l'abattement. L'abattement, c'est... Tu sens même plus que tu as la force de combattre. Là, t'es comme sur un down. Moralement, t'es abattu, t'es comme si t'as baissé les bras, puis t'en peux plus. C'est au-delà de tes capacités. Mais quand t'es rendu à cette étape-là, mais Dieu est à côté de toi, il nous dit dans ce verset-là, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Parce que t'es son enfant, parce que t'es un juste, parce que tu lui appartiens. Il t'aime tellement que quand tu pleures et que tu te sens seul, Dieu est là et il te relève. Si tu t'en sors, c'est parce que c'est lui qui t'a aidé. Tu as juste savoir que Dieu veut, il peut, puis il le fait. Il t'écoute, il t'entend, il est avec toi, il est là puis il veut te relever. Juste encore dans le même verset. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si un chrétien, un enfant de Dieu, sort pas de son état de malheur, il vit, le malheur nous frappe, mais on s'en sort. Si quelqu'un s'en sort pas, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable de le faire, c'est parce que la personne n'a peut-être pas demandé à Dieu de l'aider. Puis de garder confiance que Dieu va le sortir, puis que Dieu l'entend, puis que Dieu est avec lui, puis Dieu va l'aider, puis il va te relever. Il dit, il nous sort, il nous délivre de toutes nos souffrances. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses yeux, aucun n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Mais l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Vous savez qu'il y a un châtiment qui s'en vient pour l'ensemble de l'humanité, sauf pour ceux qui appartiennent à Dieu. Si on a trouvé en Dieu notre refuge, on échappe au châtiment. Gloire à Dieu. On a tout, même si tu n'as rien dans tes pots, dans ton compte de banque, c'est écrit « moins ». 10 000 piastres, parce que t'es 10 000 piastres de dette, ou 20 000, ou 50 000, t'es dans le rouge. T'as rien devant toi, t'as plus de famille, t'as plus rien. Si t'as Dieu dans ta vie, parce que tu as donné ta vie, t'as confessé que Jésus c'était le sauveur, puis il est la mort pour tes péchés, puis tu l'as reçu pour toi, puis tu as dit, Seigneur, je veux changer de vie, je veux vivre avec toi. Fait que là, tu as demandé son Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, t'es pardonné, tu marches avec Dieu, t'es un juste, t'as tout. Même si t'as rien autour, t'as tout, Dieu est avec toi. Tu as déjà tout ce qui est le nécessaire pour passer à travers de ta vie et de rentrer dans la vie éternelle.
Amen.
Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait averti c'était l'Ancienne Alliance, mais avant que Jésus meure sur la croix, il avait averti qu'il viendrait celui qui était pour nous consoler. Il a averti une personne, il a dit, dans pas longtemps, tu vas voir de tes yeux celui qui va amener la consolation à toute l'humanité, au peuple de Dieu. Dans Luc 2, 25 et 26, ça nous parle d'un homme qui s'appelait Siméon. un vieillard qui avait la crainte de Dieu et qui était rempli du Saint-Esprit. C'est dans un peu avant que Jésus vienne au monde. Cet homme-là, il était juste et pieux. On voit ça dans Luc 2, 25 et 26. C'est un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait de Dieu que Dieu envoie la consolation. On dit, là, le sujet qu'on est en train d'étudier, c'est que Dieu nous relève de notre abattement et de nos afflictions. Mais celui qui est pour nous consoler, pour nous relever, il y a un nom. Il y a un nom, celui qui nous accorde la consolation. Ce nom-là, c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était envoyé par Dieu pour être le consolateur d'Israël. Ça nous dit que Siméon était rempli du Saint-Esprit, puis il dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Il attendait que Dieu envoie ce qui était nécessaire pour que Israël soit consolé. Puis il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Puis c'était qui? C'était Jésus. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il était dans le temple une journée, il était vieillard, il était dans le temple, puis Marie arrive avec son enfant pour le consacrer à Dieu, puis le faire selon les rituels juifs, le circoncis, etc. Puis là, lui, il a vu Jésus, puis le Saint-Esprit a dit, c'est lui qui est la consolation. Il avait été averti qu'il verra de ses yeux, puis il a vu Jésus arriver, puis le Saint-Esprit l'a guidé. Là, il dit, maintenant, Seigneur, ton serviteur peut s'en aller en paix, parce que j'ai vu ton salut que tu nous envoies, et que c'était Jésus. Jésus a été présenté comme étant le consolateur de l'humanité, du peuple juif pour commencer, puis après ça, ça s'est étendu à travers toute l'humanité. Jésus est celui qui est envoyé par Dieu, qui nous accorde la consolation de Dieu. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu nous est donné à travers Jésus. Jésus, j'en ai parlé dans d'autres passages, dans d'autres prédications avant, un des premiers messages qu'il a prêché après qu'il soit converti, il a parlé d'une promesse dans l'Ancien Testament, que le oint, le Christ, serait oint pour manifester la puissance de Dieu sur la terre puis d'accorder des guérisons, des délivrances, etc. Je vais vous lire ce passage-là, mais dans l'Ancien Testament, et dit par le prophète Isaïe, Isaïe 61, les versets 1 à 3. Vous allez voir que tout ça, ça se tient. Puis les promesses de l'Ancien Testament fait par le prophète Isaïe ont eu leur accomplissement en Jésus. Ça se lit comme suit dans Isaïe 61, les versets de 1 à 3. C'est Jésus qui lit ce passage-là devant la foule qui a dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est à quoi cette Écriture-là? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Oint, c'est qu'il a donné l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, ça, la bonne nouvelle, on la connaît, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fait que Jésus, son onction qu'il a reçue, c'était pour guérir les cœurs brisés. Là, je vous en parle de tout à l'heure des cœurs brisés. Ceux qui pleurent, les cœurs brisés, c'est que t'as des souffrances que tu as dans ton âme. Tu pleures, t'es triste, t'es abattu. Tout ce qui peut être dans ton âme intérieure.
Un
oint,
c'est un
disciple
baptisé?
Non, un oint, c'est celui qui était oint du Saint-Esprit. C'est dans ce contexte-là, c'était Jésus qui était le oint. Jésus, quand il a lu ce passage-là, il a dit, aujourd'hui, cette parole du Seigneur a été accomplie. C'est lui qui était celui qui avait été oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour les autres choses que je vois là. Pardon?
Jésus a été choisi
par Dieu,
fait qu'il était
oint. Oui, il était oint. Puis quand on parle de oint, ça vient du mot oindre, de l'onction que tu reçois. C'est de l'huile qui est versée sur la tête. Dans l'Ancien Testament, il y avait des rois qui recevaient l'onction, de l'huile sur la tête, pour être consacré. Ils recevaient de l'huile. Il y a des rois, des sacrificateurs et les prophètes. Non, l'onction vient de Dieu, que Dieu a déversé son Saint-Esprit sur lui pour un ministère quelconque, que de roi, de prophète ou sacrificateur. Mais Jésus a reçu l'onction pour être le consolateur, celui qui amènerait la consolation parmi le peuple d'Israël. Et après ça, ça nous a été transmis à nous. On a eu l'ouverture de pouvoir recevoir les bénédictions.
Et qu'on faisait de toute façon que Dieu a choisi Jésus, c'est pour nous son plaisir sur la terre.
Plus que son plaisir, parce qu'on va, vous allez le voir un peu plus loin dans les autres études, Jésus était là auprès du Père de toute éternité. Puis là, quand il est envoyé, c'était décidé par Dieu le Père qu'il l'enverrait pour venir faire ce qu'il avait à faire. Puis il a besoin d'être loin. C'est l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui était versée sur lui pour pouvoir faire le ministère qu'il avait à faire, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la liberté, ça c'est délivrer les captifs, de délivrer les prisonniers. Le verset 2 dit « Pour publier une année, c'est un temps de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu. » Puis là, on rentre dans la suite de ce verset-là qu'on ne lit pas souvent. Il dit qu'il a été envoyé Jésus pour consoler tous les affligés. Voyez-vous, on parle de cœur brisé, on parle d'affliction, mais Jésus, son onction, était aussi pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Fait que quand tu as des souffrances dans ton âme, Jésus a reçu l'onction pour te consoler, pour nous consoler. Puis le verset 3 de Isaïe 61, ça continue encore, « Pour accorder aux affligés de Sion, qui sont les affligés de Sion? » Mais dans ce temps-là, les gens pensaient que c'était les Juifs qui étaient le vrai peuple de Dieu. Mais dans la suite, la révélation, ça a été démontré que le vrai peuple de Dieu était formé de Juifs et de païens, dont nous. On fait partie du peuple de Dieu. Nous sommes les enfants, les fils de Sion. Sion, la cité céleste, la véritable Israël de Dieu. Maintenant, dans ce passage-là, ça nous dit que Jésus a été oint, au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion. Fait que le peuple de Sion, c'est nous. Puis ceux qui sont affligés parmi le peuple de Sion, mais il dit... Jésus veut nous accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui lui appartient? Mais au lieu que tu marches dans la poussière, il va te donner une couronne. Au lieu que tu sois dans le deuil, tu vas être dans la joie. Il peut remplir ton cœur de joie, la joie qui vient d'en haut, la joie du Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie produits par le Saint-Esprit. Dieu peut remplir nos cœurs de sa paix et de sa joie. C'est l'onction que Dieu nous donne pour nous consoler, nous restaurer, nous relever de notre abattement, nous faire marcher sur la terre dans le bonheur. Pas par les choses terrestres, mais par ce qui vient de l'Esprit-Saint. Puis il peut te donner aussi un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Fait qu'au lieu que tu te penses toujours dans l'abattement à cause que ça va mal autour de toi, il va te donner un vêtement de louange, puis tu vas continuer à louer, parce à glorifier ton Dieu pour les victoires qu'il te donne.
Amen.
Sommes-nous arrivés à ce point-là?
Oui.
D'être capable de louer Dieu, même si ça va mal. Mais si vous y arrivez, c'est parce que c'est l'Esprit-Saint qui est en train de vous donner cette grâce-là. Ça vient pas
naturellement.
C'est Dieu qui a promis que Jésus avait cette fonction-là pour le faire. Puis quand tu es un enfant de Dieu en contact, tu reçois ces bénédictions qui découlent. Ça fait partie de ces bénédictions. Fait que le Seigneur, il nous avait invités à regarder à lui pour trouver du repos. Vous le savez, ça, hein? Vous avez des souffrances, vous êtes abattus, vous êtes écrasés. On peut regarder à Jésus pour trouver du repos. Il nous le dit dans Matthieu 11, 28. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » C'est ce que Dieu veut faire. Dieu est celui, Yahweh, qui guérit, Yahweh, Yafa. Il est celui qui est capable de guérir, de consoler, t'a donné du repos, tu es fatigué, chargé, il va te décharger. Il dit, décharge-toi sur moi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il faut que tu apprennes à regarder à Dieu, à rechercher Dieu dans ta vie, et à lui remettre tes problèmes entre ses mains. Quand tu es fatigué, c'est le mot grec qui est écrit là, ça veut dire fatigué d'avoir trop travaillé ou d'avoir travaillé beaucoup. Tu es écrasé, tu es fatigué. En bon québécois, tu es brûlé. Tu es au bout, tu n'es plus capable. Mais quand tu es rendu à cet état-là, mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes brûlés, au bout, il n'est plus capable. Je vais vous donner du repos. Puis ça nous dit aussi être fatigué, prendre la peine, avoir souffert. C'est être las, fatigué, épuisé par un dur travail ou des fardeaux ou du chagrin. Tu peux être bien abattu ou c'est à cause de ton chagrin. Mais Dieu dit, va à Jésus, il va te donner son repos. Il nous a donné une promesse d'inbéatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Qui vous pensez qui est la consolation?
Jésus.
C'est Jésus. Siméon l'a dit. Il dit, il attendait celui qui était pour être la consolation d'Israël. Il dit, heureux les affligés, ils seront consolés. Par qui? Par le consolateur, Jésus. Jésus était le premier consolateur envoyé. Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous consoler? Parce que, est-ce qu'on s'en est aperçu que Dieu nous consolait? J'espère que oui, que vous avez déjà reçu quelques consolations. Et si vous ne saviez pas que vous pouviez en avoir, maintenant vous le savez, je vous encourage à remettre tous vos fardeaux, vos problèmes, les remettre dans les mains du Seigneur. Vous n'avez pas une situation et quelque chose qui vous pèse, mais au lieu de critiquer puis de chialer, mais parlez-en donc à Dieu. C'est le seul qui peut régler les affaires bien mieux que nos critiques. Quels sont les moyens que Dieu se sert pour nous consoler? Il nous console déjà, c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté pour y penser. Le premier, j'en ai parlé tantôt, Dieu a déjà donné la parole de Dieu là-dedans de tout ce qui est utile pour notre consolation. Dans Romains 15, verset 4, c'est ce que ça nous dit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance... Bon, où est-ce que c'est écrit, tout ce qui est écrit d'avance, c'est dans la Bible. C'était là bien avant que je vienne au monde. C'était là bien avant que je... aucun de vous, même le plus vieux de la gang ici, là, c'était dans la Bible, c'était là bien avant que vous veniez au monde. Et il dit dans ce passage-là, tout ce qui a été écrit d'avance, même dans l'Ancien Testament, c'était avant Jésus, ça. J'ai lu tout à l'heure des passages dans le temps avant Jésus. Ça a été donné pour notre instruction. Ça veut dire pour nous instruire, pour qu'on apprenne les choses de Dieu. Tout ce qui est écrit là, c'est pour mon instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les Écritures nous consolent, que ça dit dans ce verset-là. De quelle façon les Écritures nous consolent? Quand on voit une promesse, il y a un verset qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira ton sentier. » Fait que si tu aperçois que cette promesse-là est écrite, bien avant que tu sois là, puis c'était pour mon instruction, là j'apprends que cette promesse-là est là, là je décide de faire confiance à Dieu, là je dis « Seigneur, là je veux voir ta main en dessous là, je décide, parce que c'est une décision. Je peux dire, oh, ben moi, je verrai, pour le moment, je suis capable de m'arranger de ça, j'ai pas besoin de toi. Il y en a qui vivent de même. Vivent leur vie 100% sans Dieu. Ils veulent pas Dieu dans leur vie. Puis Dieu a permis que le système puisse se vivre aussi sans lui. On peut vivre une vie, 100% de notre vie, sans avoir parlé à Dieu une seule fois. Il y en a qui le font. Tant mieux pour eux, mais c'est pas pour moi. Moi, j'aime mieux apprendre à m'appuyer sur Dieu et voir des exaucements, et voir des réponses de Dieu directes dans ma vie. C'est bien mieux. Fait que là, ce verset-là me dit, recommande-y ton sort, fais-y confiance, puis il va agir. Tu vas voir sa main, puis tu commences à mettre ta foi sur lui. Tu lui remets le problème, là, tu mets ta confiance. Le Seigneur va agir. Je fais confiance, il va agir. Il me dit qu'il agira, c'est écrit qu'il agira. Moi, je fais confiance à Dieu. C'est écrit qu'il va agir, puis là, je veux le voir agir. Puis là, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que c'est lui qui va agir. J'essaie plus de penser que je suis celui qui va régler mes problèmes. J'y remets mon fardeau, Seigneur, ça fait longtemps que j'essaye, puis je ne suis pas capable. Je le remets entre tes mains, je te fais confiance. La Bible nous dit qu'il va agir.
Amen.
Ça donne de la consolation de savoir ces promesses-là. Là-dedans, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'aucun homme est capable de faire. Il y a juste le Dieu de l'impossible qui est capable de le faire. Ça s'adonne, c'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est le Dieu vivant, l'Éternel des armées, celui qui a créé toutes choses. Puis il dit, tout est possible à Dieu.
Amen.
Tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est trop grand pour Dieu. Donc, apprenons à lui faire confiance. Les Écritures sont notre consolation en autant qu'on reste basé sur les Écritures qui sont écrites. Pourquoi je dis ça? Parce que des églises aujourd'hui sont plus contents de ce qui est écrit. Ils en rajoutent.
Il enlève.
C'est comme s'il y a des partis qui ne croient pas, ils ont arraché les pages. Il y en a qui ont tellement arraché de pages qu'il reste juste le couvert. Il y en a d'autres qui en ont passé, fait qu'ils se rajoutent des affaires qui ne sont pas écrites.
Ils se font des
livres
à part.
Ils se font des livres à part. Des fois, il n'y a plus qu'un livre, des gros livres à part. Il ne se fait pas tous ces livres-là, tu n'arrives jamais à rien dans cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'a, c'est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tous les livres apocryphes qui sont les livres rajoutés, on ne les utilise pas. Et ni les autres livres de d'autres hommes comme les autres religions qu'on entend aujourd'hui. Il y a juste la parole de Dieu qui est la parole de Dieu.
C'est écrit dans la Bible.
Pardon?
Dans l'Apocalypse.
Oui, c'est écrit dans l'Apocalypse de ne pas ajouter rien, de ne pas retrancher rien de ce qui est écrit. La révélation est complète. Puis s'il y a des religions qui inventent des choses, la Bible nous dit dans ce passage-là qu'elle mentionne que si on retranche quelque chose, Dieu va retrancher notre part de l'arbre de la vie. Puis si on ajoute quelque chose, Dieu va nous frapper des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Fait qu'on n'a pas à rajouter rien et à enlever rien. La minute que tu sors et tu vas plus loin de ce qui est écrit, Dieu n'est plus avec toi. Dieu veut qu'on soit fidèle à ça. Il ne veut pas qu'on en rajoute et il ne veut pas qu'on enlève. Si on reste là-dedans, on va être heureux. Il faut faire attention aussi aux prophéties. Les prophéties, c'est de Dieu, mais la Bible nous dit pour les prophéties, parce que le don de prophétie, ça existe. Tu peux amener des paroles comme inspirées par le Saint-Esprit, mais la Bible nous dit, méprisez pas les prophéties, sondez toutes choses, examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon, et abstenez-vous toute espèce de mal. Parce que des prophéties, si c'est plus ce qui est écrit là, faut que tu sondes, si c'est pas écrit là, tu n'acceptes pas ces idées-là, même si la personne se pense inspirée. Parce qu'il y en a eu des religions qui ont eu des prophètes, comme Joseph Smith, qui est parti des témoins de Jéhovah. Il y a même des religions musulmanes, il y a Mahomet, de lui il est parti d'autres affaires.
Bouddha.
Peu importe, je ne sais pas Bouddha s'il a existé pour le moment. Moi, je ne connais pas les religions.
Hein?
Oui, un gars qui s'appelait semblable, que lui est parti sur d'autres affaires. La révélation est déjà complète à travers Jésus, le Christ, le Oint, le Consolateur. On va vous faire ça vite pour vous parler de d'autres manières que Dieu peut nous restaurer, ou nous consoler, ou nous rafraîchir. Dans les actes, il y a une promesse de rafraîchissement qui vient du Seigneur. Dans Actes 3, 19, Il y avait, l'apôtre était là en train de prêcher une foule qui était devant lui pour lui dire de se repentir puis de se convertir au Seigneur. Il lui dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Première étape. Puis il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est que quand tu viens à Jésus, tu ne fais pas juste recevoir le pardon de tes péchés. Il veut aussi te rafraîchir dans ta vie. Quand est-ce que tu as besoin d'être rafraîchi? D'habitude, on a besoin d'être plus bouillant que le Seigneur. Mais des fois, quand ça chauffe, parce que là, tu as des problèmes, puis là, tu en as. Là, ça chauffe. Tu as besoin de temps de rafraîchissement. Tu as besoin de... Ouh, ça me prend du vent, mais il fait chaud. Oh. Mais ça, le Seigneur est capable de pardonner, puis rafraîchir ton âme, te restaurer, te faire du bien. Refroidir nos ardeurs, des fois, même dans les choses qui ne sont pas de Dieu. D'autres moments que le Seigneur se sert pour pouvoir nous consoler et nous restaurer, il dit, il sert parfois des frères et sœurs. Dieu se sert des fois des frères et sœurs pour nous consoler. On voit ça dans 2 Corinthiens 7, le verset 4 à 6. Paul, lui, vivait des temps très difficiles. Il était dans la grosse persécution quand il était en train de prêcher la parole. Il y avait des problèmes qu'il faisait face dans les églises, puis tout ça. Il dit, j'ai une grande confiance en vous et j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Et je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Fait qu'il vivait toutes sortes de tribulations, mais il était rempli de consolation. Ça allait mal dans sa vie, ça brassait. C'est pas grave. Intérieurement, il y avait la paix. Il était rempli de consolation. Il se sentait comblé. Il dit, quand je suis arrivé en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes les manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Paul, là, il confessait ce qu'il croyait. Dieu, il console ceux qui sont abattus. Lui, il dit, ça a la mal au bout, en dedans, en dehors, tout a la mal. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Mais Tite, c'était un de ses amis, un de ses compagnons de service. Puis quand il est arrivé, ça lui a fait du bien. Mais pourquoi vous pensez que ça lui a fait du bien? Parce que c'est Dieu qui dit qu'il l'a consolé en envoyant Tite. Dieu sait ce qui peut nous faire du bien. Il vous accorde des bénédictions des fois dans ce que vous avez de besoin. Puis là, il sait que ça va vous consoler, ça va vous bénir, ça va vous faire du bien, ça va être un encouragement. Puis même si tout va mal, le petit bien que tu sais que c'est Dieu qui t'a répondu, merci Seigneur, ça m'encourage. Là, ça te donne encore de la force de continuer à avancer. Il est arrivé aussi dans d'autres moments où ce que les gens ont été consolés quand ils ont vu un miracle de la part de Dieu. Paul est en train de prêcher à du monde dans une maison, il est au deuxième étage, puis il a prêché plus longtemps que moi. Il a prêché jusqu'à minuit soir. Il était rendu tellement fatigué, il avait assis sur le bord du châssis, il est tombé en bas du châssis, puis il est tombé à terre, puis il est mort. Là, je ne sais pas si tu le sais, mais je ne sais pas s'il était rendu à faire l'appel au salut. Mais là, il est en train de prêcher. Là, il ramasse le gars, ils l'ont mis à quelque part en attendant. Il a fini sa prêche jusqu'au lendemain matin. Après ça, il est parti avec le gars. Puis pas longtemps après, le gars est revenu et était ressuscité. Ça a été une grande consolation pour les gens qui étaient là. Acte 20, verset 12, ça nous dit, « Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Quand Dieu manifeste ses miracles, c'est encourageant. Amen.
Amen.
Faut pas oublier que quand on vit des afflictions, puis qu'on reçoit de Dieu des consolations, c'est pas juste pour nous bénir nous-mêmes. Dieu veut servir de ça pour bénir les autres. 2 Corinthiens, le verset 1, le 3 à 4. Ça nous dit justement cela. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ça veut dire, si vous êtes béni par le Seigneur, puis le Seigneur vous a consolé, vous a béni, vous a restauré, vous a touché, vous a fait du bien, il vous a relevé, peu importe les bénédictions que vous recevez. C'est Dieu le toute consolation. Peu importe la celle que vous avez reçue, partagez-la aux autres. Ça va servir à encourager d'autres personnes qui sont autour de vous. Dieu veut aussi bénir les autres avec votre bénédiction. Puis si tout le monde partage qui vive les belles affaires que le Seigneur a faites, ça, tout le monde va être encouragé dans tout cela. Dernier point, dernier verset. La consolation suprême pour soulager les chrétiens qui souffrent dans le monde. Y a-t-il quelqu'un qui en connaît une consolation, la plus grande et plus belle des consolations qu'on peut avoir comme verset révélé dans la parole de Dieu, pour peu importe là, ce que tu es en train de vivre comme souffrance dans ce monde. Dieu a donné une parole, j'en ai parlé aujourd'hui, au début des chants. Qu'est-ce que j'ai dit comme verset au début des chants? Les chants qu'on a chantés tantôt, j'ai parlé de la ville sainte. En Apocalypse 7, 14 jusqu'à 17, il dit nous ce qu'il y avait une grande foule dans le ciel qui sont sauvés. Une grande foule, une multitude de sauvés. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il y a un jour, le jour où on va être rendu au monde, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Peu importe ton affliction que tu es en train de vivre, aujourd'hui on a quelques-unes ici, mais il y a des pays qui s'étoffent, là. Il y a des chrétiens qui sont en attente de se faire décapiter. Il y en a d'autres qui sont en prison depuis longtemps, puis ont été oubliés là, puis ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont sortir parce que les lois sont injustes, ils les ont condamnés justement. Ces gens-là souffrent, sont dans l'affliction. Sache qu'un jour, Dieu, premièrement, il est toujours à côté de ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'affliction. Surtout particulièrement ceux qui lui appartiennent, c'est juste. Dieu est avec, Dieu les console, Dieu lui donne des paroles dans leur intérieur pour les rafraîchir, les restaurer, les renouveler, les garder dans la joie et dans la paix, que malgré les injustices et les souffrances, Dieu console leur cœur. Puis un jour, quand ces gens-là vont être passés de ce monde à l'autre, bien, ils vont se retrouver que Jésus lui-même, il va essuyer toutes larmes de leurs yeux. N'est-ce pas extraordinaire? À l'heure d'être rendu au bord, c'est l'autre bord que la consolation et le complet, et le repos complet de nos souffrances terrestres vont être accomplis. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole est vraie. Et tout ce que tu nous as dit est vrai. Et nous croyons que tu es notre consolateur, celui qui nous a été envoyé pour nous donner le repos, pour nous donner la consolation, pour nous fortifier, pour nous rafraîchir, pour nous restaurer, pour nous donner de l'assurance, puis de l'espérance, puis de la patience dans ce monde. Nous encourager, enlever tout abattement, puis nous donner du courage pour aller de l'avant. Seigneur, merci de ce que tu vas faire dans nos vies, et nous garder dans cette fermeté-là, parce que c'est toi qui vas le faire dans nos vies. Prends tous nos fardeaux, nos problèmes, nos difficultés, on te les donne dans le nom de ton fils Jésus. Amen.
Amen.